Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en ce mercredi 25 mars 2020. Une émission préenregistrée en télétravail en raison du Covid-19 à la une de l'actualité ce soir. Et justement, une actualité toujours dominée par le coronavirus. Mesures encore plus strictes en Afrique où la maladie progresse avec pour l'heure environ 2140 cas. Dont une soixantaine de morts. Le Mali confirme ses deux premiers cas. Le Mali où les violences continuent avec la mort de deux soldats tués par l'explosion d'une mine artisanale. Attaque djihadiste au Burkina également et près de 100 militaires tchadiens ont été tués lundi par Boko Haram dans la province du Lac.
Je dirais que c'est pour la première fois que j'ai mené beaucoup d'opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire. Nous allons revoir tout notre dispositif pour éviter ce que Burma a connu.
En Russie, le président Vladimir Poutine reporte le vote populaire sur sa réforme constitutionnelle à cause du coronavirus. Pour l'heure, on compte plus de morts en Espagne qu'en Chine. Plus du tiers de l'humanité sommée de se confiner. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Le pays est en guerre et maintenant le Mali vient de confirmer ses deux premiers cas de coronavirus sur deux Maliens rentrés de France à la mi-mars. Le Mali figurait parmi les rares pays d'Afrique à ne pas avoir officiellement déclaré de cas, alors que les sept voisins de ce pays enclavés sont déjà touchés. Par ailleurs, deux soldats maliens ont été tués dans l'explosion d'un engin explosif improvisé hier de Bamako. Le point avec Kassim Traoré.
Le Mali était l'un des derniers pays en Afrique de l'Ouest à ne pas déclarer des cas de coronavirus, alors que ses sept voisins avaient enregistré au moins un cas. Le gouvernement a informé l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la situation épidémiologique au Mali. C'est à travers cette communication disent avoir enregistré deux cas testés positifs au coronavirus COVID-19. Il s'agit de deux personnes de nationalité malienne rentrées de France les 12 et 16 mars 2020. Le premier cas est une dame de 49 ans résidant à Bamako. Le deuxième est un homme de 62 ans à Kaï. Les deux, selon le communiqué du gouvernement, sont pris en charge par les autorités sanitaires du pays. Le gouvernement rassure aussi que toutes les mesures sont prises pour une meilleure gestion des deux cas. Par ailleurs, l'un des principaux ponts reliant Banyangara à Sévaré dans le centre du pays, situé à l'intersection de Sogo-Dengébéré, a été dynamité par des terroristes cette nuit, coupant la région du reste du Mali. Selon les populations sur place, il est nécessaire de réhabiliter rapidement cette infrastructure vitale pour le Mali qui relie Mopti à Ouibia au Burkina Faso. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, trois personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées hier lors d'une attaque qualifiée de terroriste à Tankouarou, dans l'est du pays. Des individus armés non identifiés ont attaqué le village et ont tué les trois habitants de la commune de Futuri, province de la Komandjari. Les deux autres victimes, l'ancien maire de Futuri qui séjournait dans la localité et un commerçant. D'après un habitant, les assaillants étaient plusieurs sur des motocyclettes. Ils se sont d'abord rendus au domicile du chef de village et ils l'ont abattu avant de se diriger vers le marché. Une attaque du groupe djihadiste Boko Haram a tué lundi au moins 92 militaires tchadiens. C'est ce qu'a déclaré hier le président Idriss Déby Itno, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque à Boma, dans la province du Lac. Un officier supérieur reconnaît que l'ennemi, dit-il, a porté un coup dur à l'armée tchadienne dans cette région. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Et pour revenir au coronavirus, la pandémie continue de se propager en Afrique. Couvre-feu et état d'urgence ont été déclarés dans plusieurs pays, dont le Sénégal. Au Nigeria, un proche du président testé positif provoque l'inquiétude. Claire Morin-Gibourg.
L'état d'urgence a été déclaré en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Sénégal, où il est assorti d'une interdiction stricte de circuler de 20h à 6h du matin. Des défenseurs sénégalais des droits humains ont dénoncé aujourd'hui les abus de certains policiers chargés de faire respecter le couvre-feu. Au Nigeria, Abba Kyari, le directeur de cabinet de Muhammadu Buhari, a été testé positif au coronavirus. Le vice-président, plusieurs gouverneurs et de nombreux hommes politiques se sont mis en quarantaine volontairement après avoir été en contact avec lui. En Afrique du Sud, il y a désormais 709 cas. Le ministre de la Santé s'inquiète de la hausse des transmissions locales. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé l'amnistie et la libération prochaine de plus de 4000 prisonniers pour faire de la place dans les prisons surpeuplées et confrontées au risque de propagation du nouveau coronavirus. Depuis l'annonce de mesures drastiques par Rabat, Alger et Tunis dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les rues désertes sont étroitement surveillées par des patrouilles de policiers et de militaires. Les marchands de rue ont disparu, les petits commerces ont tiré le rideau. Le FMI et la Banque mondiale demandent aux créanciers de geler les remboursements de la dette des pays pauvres.
Le général Jamal al-Din Omar, ministre soudanais de la Défense, est mort aujourd'hui alors qu'il participait à des pourparlers de paix intersoudanais à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Le ministre souffrait de maladies chroniques, a indiqué le porte-parole de l'armée soudanaise, sans autre précision. Dans un communiqué, la délégation soudanaise en charge des négociations à Djouba a pour sa part affirmé que le ministre avait succombé à une crise cardiaque alors qu'il accomplissait son devoir sacré en servant son pays, dit-elle. Jamal al-Din Omar, né en 1960, avait été nommé ministre de la Défense après la chute du président Omar el-Béchir, chassé du pouvoir par l'armée sous la pression de la rue en avril de l'année dernière.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis sont en train de devenir un point chaud de la pandémie de Covid-19. Selon l'université Johns Hopkins, le pays enregistre plus de 55 000 cas et 800 morts. Le point avec Abdourahman Zia.
Plus de la moitié de ces cas se trouvent à New York, devenu l'épicentre de la pandémie aux États-Unis. Ce qui a poussé le gouverneur Andrew Cuomo à demander plus d'aide de la part du gouvernement fédéral. Le président Donald Trump a réagi, indiquant que l'armée était en train de construire 4 hôpitaux à New York. 2 autres États durement touchés, la Californie et Washington, verront aussi une assistance accrue de l'État fédéral. Mais le président Trump a aussi suscité la controverse en exprimant le souhait de voir le pays retourner au travail d'ici à Pâques. Il a ensuite indiqué qu'il suivrait les recommandations des experts. Plusieurs États ont imposé des restrictions sur les déplacements des populations, certains allant jusqu'à ordonner l'arrêt des activités jugées non essentielles. Par ailleurs, la Maison-Blanche et le Sénat sont parvenus dans la nuit de mardi à mercredi à un accord historique sur un plan gigantesque de relance de l'économie. C'est ce qu'a annoncé le chef de la majorité républicaine. Plus de 2 000 milliards de dollars vont être injectés dans l'économie sous forme d'appui aux entreprises en difficulté et aux ménages. Une enveloppe de 150 milliards est destinée aux hôpitaux pour faire face à la pandémie.
Confinement à l'échelle planétaire avec l'Inde et ses 1,3 milliard d'habitants, environ 2,9 milliards de personnes sont appelées à rester chez elles pour lutter contre la propagation du coronavirus qui a fait plus de 19 200 morts sur 427 000 cas déclarés dans le monde. Nathalie Barge fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie.
L'Espagne, qui a dépassé la Chine en nombre de morts du coronavirus, a commandé à Pékin pour 432 millions de matériel sanitaire pour l'acquisition de 550 millions de masques, plus de 5 millions de tests rapides, une centaine de respirateurs et 11 millions de gants de protection. Ce pays qui compte 3 434 morts est le deuxième avec le plus de victimes au monde derrière l'Italie. En Grande-Bretagne, le Parlement ferme ses portes ce soir pour un mois. En Russie, le président Vladimir Poutine a annoncé le report du vote populaire sur la réforme constitutionnelle prévue le 22 avril. Il a aussi décrété la semaine prochaine chômée pour ralentir l'épidémie de coronavirus. L'Iran va interdire en fin de semaine la circulation entre les villes. En Amérique latine, le Panama est entré en quarantaine et l'Uruguay ferme ses frontières. Le président brésilien Jair Bolsonaro a dénoncé les mesures de certains États et municipalités de son pays, les comparant à une politique de la terre brûlée qui menace de ruiner l'économie. Enfin, après 2 mois de bouclage, la province chinoise de Hubei a commencé à s'ouvrir. La quarantaine de son chef-lieu, Wuhan, sera levée le 8 avril.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au large du Mozambique, le projet Rovuma de gaz naturel liquéfié devrait obtenir le feu vert au premier semestre. Il doit être exécuté par le Qatar à partir d'un bloc en eau profonde contenant plus de 85 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Le Qatar veut retarder l'exécution de ce projet car Exxon, le principal partenaire, veut retarder sa décision finale d'investissement à cause de la pandémie de coronavirus. Endeavour Mining veut acquérir la mine d'or Semafo au Burkina Faso dans le cadre d'un accord de plus de 690 millions de dollars pour créer une société qui deviendra la plus grande productrice d'or avec 1 million d'onces d'or par an. Les actionnaires d'Endeavour détiendront environ 70% de la société et le reste reviendra aux actionnaires de Semafo. Le PDG d'Endeavour Mining, Sébastien de Montessus, indique que l'épidémie de coronavirus ne va pas probablement perturber la mise en œuvre du plan. Pour terminer, la Tunisie voulait émettre jusqu'à 800 millions d'euros d'obligations sur le marché international cette année. Mais le ministre tunisien des Finances, Nizar Yaïch, affirme que ce plan est devenu la dernière option à cause du marché devenu imprévisible et des taux de prêt qui sont très élevés. Le gouvernement étudie des plans pour émettre des obligations sur le marché local. Il a aussi promis d'allouer 850 millions de dollars pour lutter contre les effets économiques et sociaux de la crise.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Yacouba, nous faisons connaissance ce soir avec Abdel Mounaïm Ba, le nouveau secrétaire général par intérim de la CAF.
Effectivement, Jacques, le Marocain a été nommé le 3 mars en remplacement de son compatriote démissionnaire Mouhad Hadji, qui est donc Abdel Mounaïm Ba, il nous le dit lui-même.
Pour faire bref, je suis Abdel Mounaïm Ba, 39 ans. J'ai rejoint la CAF il y a 2 ans en tant que directeur marketing, qui est devenu ensuite directeur commercial. Avant cela, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Lagardère Sport. Et comme vous le savez, depuis la démission de l'ancien secrétaire général, j'assure l'intérim jusqu'au prochain comité exécutif.
Abdel Mounaïm Ba a pris ses fonctions de SG par intérim, et ce jusqu'à la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF. Il continue d'assurer aussi ses occupations de directeur commercial, à laquelle il a été nommé en juin 2018. Comment il tient tout cela, Abdel Mounaïm Ba?
C'est clair qu'aujourd'hui, je cumule les deux postes, mais ça se fait de façon assez naturelle. Je m'appuie bien évidemment sur toutes les équipes en place, notamment le secrétaire général adjoint Anthony Baffo, l'ensemble des directeurs, l'ensemble des chefs de service. Pour le coup, le travail est assez fluide.
La grosse actualité du football africain, c'est le report du CHAN 2020, initialement prévu du 4 au 25 avril au Cameroun, qui accueillera également la prochaine CAN 2021, fois du nouveau secrétaire général par intérim de la CAF.
Aujourd'hui, c'est clair que le CHAN et la CAN se joueront au Cameroun. La question, c'est quand. On essaiera autant que possible, comme je l'ai indiqué dans mon précédent message, de jouer le CHAN en 2020 et la CAN en 2021. Mais concernant les dates, aujourd'hui, rien n'est à exclure et tout dépendra de l'évolution de la situation, et notamment sur notre continent.
Abdel Mounaïm Ba, secrétaire général par intérim de la CAF, au micro d'Amine Birouk, notre correspondant au Maroc. Oui, avec la découverte de 2 cas de contamination au coronavirus, le ministre malien de la Jeunesse et des Sports appelle à la vigilance.
Chers jeunes du Mali, supporters et amis sportifs, l'heure est grave. Le coronavirus gagne du terrain chaque jour dans le monde et aucun médicament homologué n'existe à ce jour contre ce mal. L'unique solution reste la prévention. C'est pourquoi des recommandations sont faites par les plus grands spécialistes en santé publique du monde en matière de prévention. S'il vous plaît, respectez-les scrupuleusement.
Modibo Haruna Touré, ministre malien de la Jeunesse et des Sports.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Nous passons maintenant à la tranche magazine. Retour sur ce drame au Tchad. Boko Haram a tué près de 100 militaires tchadiens dans une attaque à Boma, dans la province du Lac. Le président Idriss Déby Itno s'est rendu en personne sur les lieux de l'attaque hier pour s'incliner, dit-il, sur le corps des 92 soldats morts. C'est la première fois, dit-il encore, qu'il perd autant d'hommes. De N'Djamena, la capitale, le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
Pour la première fois, Boko Haram, qu'on croyait anéanti, a infligé une lourde perte à l'armée tchadienne. 92 soldats ont péri dans l'attaque du lundi dernier et 47 blessés. Côté ennemi, l'on parle d'une centaine de morts, alors que sur cette île, une unité de forces de défense et de sécurité a été installée pour sécuriser les populations. Le président Idriss Déby Itno en personne s'est rendu sur le terrain pour remobiliser les troupes.
Cette unité a été dégarnie un peu pour des besoins opérationnels. Ailleurs. Cette île maudite que nous avons perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers. Si bien vu, m'incliner devant leur mémoire. Je dirais que c'est pour la première fois. J'ai mené beaucoup d'opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire. Nous allons revoir tout notre dispositif pour éviter ce que Boma a connu.
Pour le politologue Dr Evariste Ngarlom-Toldé, cette attaque coïncide malheureusement avec l'annonce d'entrée en guerre du Tchad dans la zone des trois frontières.
C'est des gens qui ont fait allégeance à l'État islamique, donc ils vivent en réseau. Pour peu que vous touchez le cheveu d'un, vous touchez à tous les combattants islamiques. Ensuite, Boko Haram attendait toujours à surprendre l'armée tchadienne. Et le fait que l'armée tchadienne aille l'humilier sur son propre terrain, pour une fois, Boko Haram a frappé fort. Dans toute guerre, il faut savoir négocier. On ne peut pas toujours privilégier le combat, surtout que nos chefs d'État du Nigeria, du Tchad, du Niger ont promis la fin de Boko Haram depuis des années. Ils ne sont pas arrivés malgré la coalition. Donc, c'est une façon de rappeler l'armée tchadienne à ses souvenirs que vous ne nous avez pas décimés, comme vous l'avez proclamé. Nous sommes encore là et nous serons là.
L'Aldjim Narcisse Mbaynadji, journaliste et analyste politique, estime pour sa part qu'il doit avoir une fuite d'informations au sein de l'armée.
C'est pour la première fois que l'armée tchadienne qui a participé à des opérations au-delà des frontières nationales, qu'on a toujours loué sa bravoure, a été défaite. C'est surprenant. Il doit avoir certainement des complicités au sein de l'armée. Ce que le gouvernement doit faire, c'est de diligenter une enquête pour situer les responsabilités. Et il faut ajouter à cela aussi que certaines garnisons des îles de Lac Tchad ont été aussi dégarnies parce que le Tchad vient d'envoyer des contingents au niveau des trois frontières dans le cadre G5 Sahel. Donc il va falloir maintenant étoffer le dispositif au niveau des îles de Lac Tchad.
Le bilan est toujours provisoire car le décompte se poursuit sur le terrain. Un deuil national de trois jours est décrété à partir d'aujourd'hui en la mémoire des 92 soldats tués dans cette attaque. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'arrivée du nouveau coronavirus au Kenya a changé la façon de conduire les services religieux dans les divers lieux de culte de la capitale. Les catholiques de Nairobi s'abstiennent d'utiliser de l'eau bénite. Les musulmans ont cessé les ablutions rituelles et les temples hindous se sont tournés vers la diffusion en direct de leurs services par Internet. Rachid Ronald de la VOA a rencontré des fidèles de ces lieux sur place. Son reportage est relaté par Nathalie Barge.
À l'église catholique Don Bosco de Nairobi, les fidèles s'adaptent à la messe du dimanche en période de coronavirus. La Sainte Communion pour les 11 millions de catholiques du Kenya a été rendue plus hygiénique et l'eau bénite n'est désormais plus considérée comme sûre, précise le prêtre Abel Njiru. Quand c'est à l'entrée de l'église, tout le monde y trempe ses mains. Nous ne déprécions pas le pouvoir et la possibilité que les gens se sanctifient eux-mêmes avec l'eau bénite. Mais puisque c'est un élément où les gens sont en contact, nous ne voulons pas non plus scandaliser ceux qui pourraient avoir une faible immunité alors que cette eau est touchée par de nombreuses personnes. L'on assiste à une scène similaire à la mosquée Jamia de Nairobi où les portes ne sont ouvertes que pendant les heures de prière. Les musulmans représentent environ 10% de la population du Kenya, mais il a été demandé aux personnes les plus sujettes au nouveau coronavirus de prier à la maison. Et l'association kényane des médecins musulmans a ordonné aux mosquées d'arrêter les ablutions, souligne l'érudit musulman Ibrahim Litoum. Les sanitaires et les toilettes seront fermées car ces zones, selon les médecins, ont le potentiel d'aider à la propagation du coronavirus. Les fidèles sont donc invités à faire des ablutions avant de venir à la mosquée. Au temple hindou Sri Swaminarayan de Nairobi, les fidèles ont été exhortés à ne pas venir prier du tout pour éviter l'infection par de grands groupes, indique le brahman Akash Patel. Chaque dimanche, nous avons environ 1500 personnes ici réunies pour les prières hebdomadaires et les vendredis et samedis. Nous avons des assemblées pour les jeunes qui sont environ 300 à entrer. Nous avons également plusieurs classes, donc le temple a été proactif et a suspendu toutes ses activités. La plupart des hindous se connectent ainsi en ligne et diffusent les services en direct. Alors que la propagation du virus pourrait donner un sérieux coup aux communions et prières, les chefs religieux du Kenya conviennent que ce n'est pas le moment de perdre la foi. Ils recommandent donc de maintenir la distance sociale, de se laver les mains et de continuer de prier.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La plupart des pays africains ont suspendu des vols, fermé des écoles et interdit les grands rassemblements pour contenir le Covid-19. Et ils examinent de près les politiques de confinement. Mais si certains pays d'Afrique de l'Ouest prennent des mesures préventives strictes, d'autres ignorent le danger que représente la pandémie de coronavirus. Davantage avec Lionel Gaïma.
Le Cameroun a récemment fermé ses frontières terrestres, aériennes et maritimes pour une durée indéterminée. Les écoles et les universités ont été fermées pour enrayer la propagation du coronavirus. Certains enfants s'en servent comme excuse pour errer dans les rues et acheter des sucreries dans la boutique de Florence Awa.
Lorsque les enfants jouent ensemble, ils peuvent être infectés par leurs amis porteurs du virus. Il est donc tout à fait normal de suspendre les écoles jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé, ce qui empêchera la transmission, en particulier chez les enfants.
Mais en général, les Camerounais de Douala se disent d'accord avec les mesures, même si elles ont un impact fondamental sur leur vie et menacent peut-être leurs moyens de subsistance. La gare routière de la ville accueille normalement des centaines de voyageurs chaque jour. Pour les commerçants, l'arrêt de transport ralentit les affaires. Ils craignent de perdre une partie de leurs revenus, surtout si l'arrêt dure longtemps. Ena Omanor travaille comme porteur à la gare routière.
Si le pays entier ferme et que je ne puisse pas travailler ici pendant un certain temps, je serai très affecté. Je dois travailler ici tous les jours pour faire vivre ma famille. Pour l'instant, notre seul espoir est que Dieu nous aide à mettre fin à ce virus, car maintenant, nous sommes impuissants.
Les bars, les restaurants et les débits de boissons doivent fermer après 18 heures. Bien qu'ils puissent fonctionner pendant la journée, ces commerces gagnent la plupart de leurs revenus la nuit. Mais la crainte de la propagation du coronavirus dans un pays où le système de santé est vulnérable et surchargé inquiète beaucoup de gens comme Nono Arnold qui sirote sa dernière bière avant la fermeture.
Et par rapport à la décision du gouvernement, à ce qu'ils ont dit, à décider de fermer les bars à plus de 18 heures. Donc moi je trouve ça un peu logique parce qu'avec la maladie qui est dehors, on ne sait pas d'où est-ce que la maladie peut venir. Donc le gouvernement en faisant ça quand même, il essaie de protéger la population camerounaise.
La plus grande préoccupation du gouvernement camerounais est de persuader les habitants de villes souvent surpeuplées de tenir compte de l'appel de changer radicalement leurs habitudes. Ailleurs sur le continent, au Liberia, le marché de Painesville, très fréquenté, était bondé le mercredi 18 mars dernier. Certains commerçants, comme Benedictus Torus, se montraient même sceptiques.
Que le gouvernement soit juste, s'il veut faire quoi que ce soit, il doit nous le dire. Il ne devrait pas utiliser ce virus pour se faire de l'argent. Qu'il soit clair avec les informations, alors nous saurons si nous devons utiliser des méthodes de prévention ou si nous devons continuer comme nous le faisons.
Dans le rue de Monrovia, la capitale, presque personne ne porte de masque alors que certains commerçants en vendent. Florence Théa est une professionnelle de santé. Elle exhorte ses compatriotes libériens à se protéger du Covid-19.
La maladie est déjà présente ici parce qu'à l'époque d'Ebola, la même chose s'est produite et les Libériens ont dit que c'était un mensonge. Ils ont dit que c'était Hélène, l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui avait apporté la maladie. La maladie existe donc dans ce pays.
Au début de la crise d'Ebola, les gens avaient accusé le gouvernement d'Ellen Sirleaf Johnson d'avoir inventé cette situation pour obtenir plus de fonds. La faiblesse des systèmes de surveillance et des infrastructures de santé publique ont contribué à la propagation du virus Ebola.
Au fur et à mesure que la pandémie de Covid-19 se répand à travers le monde, les systèmes de santé des pays sont mis à rude épreuve, alors que le nombre de décès ne cesse d'augmenter. Pour les familles des victimes, les implications sont multiples. Arzuma Compaoré a recueilli la réaction d'Herman Bouda, enseignant de génie civil dans la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso, qui vient de perdre à son père, testé positif au coronavirus. Lui et d'autres membres de sa famille doivent se mettre en quarantaine pendant que le corps du défunt attend d'être pris en charge par les services spécialisés.
D'abord, il a commencé par des vomissements. Les vomissements se sont arrêtés et c'est le problème respiratoire qui se posait. Voilà. Donc, c'est dû donc au problème respiratoire que nous sommes partis au dispensaire. Bon, on nous a fait faire des examens où ils ont détecté donc un palu et ils ont essayé de traiter le palu. Et on nous a demandé d'aller terminer le traitement à la maison. Arrivé à la maison, bon, ça n'arrête toujours pas. Et donc, nous sommes repartis en clinique. Donc, c'est de là-bas qu'on nous a transférés vers une clinique plus spécialisée pour ces problèmes de respiration. De là, lorsque nous sommes arrivés en clinique, il a été mis immédiatement sous oxygène. Et vu les signes que le dispensaire nous avait écrit donc, sur le papier de transfert, voilà, ils ont soupçonné une contamination par le coronavirus. Donc, ils ont voulu immédiatement donc, nous transférer à l'hôpital Charles de Gaulle et à l'hôpital Tiengano plutôt, pas Charles de Gaulle. L'hôpital nous avait demandé de patienter, que normalement, eux, ils viennent faire les prélèvements, puisque c'était une suspicion d'abord. Donc, ils viennent faire le prélèvement pour faire des examens, pour confirmer, avant de transférer maintenant le malade vers Tiengano. C'est ainsi qu'ils ont fait le prélèvement samedi soir. Samedi soir, on nous avait donné 24 heures pour les résultats. C'est le lundi matin que le papa est décédé et on a eu les résultats autour de 9 heures.
Alors, au niveau de la clinique elle-même, quelles sont les observations que vous avez pu faire et quelles sont les consignes qui vous ont été données?
Alors, les médecins sur place ici nous ont dit de, pour le moment, nous ne disposons pas du corps. Nous sommes à peu près à plus de 12 heures. Donc, jusqu'à présent, ils ne sont toujours pas là. Voilà, nous sommes là dans l'incertitude. On ne sait pas trop est-ce qu'ils vont venir ou pas. Le papa dire qu'il a été en contact avec quelqu'un qui venait de l'Europe ou qui a été en contact avec quelqu'un d'autre qui avait le virus, c'était difficile à dire parce qu'il était fatigué, donc il ne sortait pas de chez lui. En tout cas, bon, nous, on part en confinement. Voilà. Donc, notamment, rester à l'écart de la famille et puis prendre régulièrement la température et au moindre signe d'appeler, quoi. Voici un peu donc, les conseils qu'ils nous ont donnés. Alors, dès qu'il y a des moindres signes, c'est mieux de se mettre à l'écart pour pouvoir protéger les autres.
Herman Bouda, enseignant de génie civil dans la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso. Et Voilà, le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. C'était Jacques Aristide au micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur VOA Afrique. Take care, prenez bien soin de vous. À très bientôt.
Bonsoir madame, bonsoir.